sur la radio Trentanel,
l'émission du collège de Gignac.
Cette émission vous est proposée par Alphonse,
Sarah,
Simon,
Anissa,
Anaïs,
Chloé,
Capucine
et Mathéo.
Bonjour, ici le collège Lo Trentanel. Aujourd'hui, nous allons parler des sciences avec les IA, avec un débat et la théorie de l'usine à trombone. Mais on va aussi parler d'une espèce en voie de disparition, le tigre. Mais surtout, du concours Éloquence avec une interview des participants que l'on va écouter dès à présent.
Bonjour, nous sommes avec Meryl Aquilina en 3e E. Aujourd'hui, on va lui poser des questions, car elle a été sélectionnée pour le projet Éloquence qui se déroulera à Toulouse. Bonjour Meryl.
Bonjour.
Comment tu t'es préparée pour le concours? Est-ce que tu as utilisé des techniques particulières?
Y a une personne qui est venue pour nous donner des conseils sur comment être plus éloquent et plus à l'aise à l'oral. Après, on avait aussi des références scientifiques à qui on pouvait envoyer des mails qui nous ont beaucoup aidés pour la construction de notre texte, les idées et comment assembler toutes nos idées aussi.
Peux-tu nous dire comment va se dérouler la finale nationale lundi à Toulouse?
Je sais qu'on va partir très tôt, on va partir à 6h15 et qu'on va rentrer assez tard, vers 8h15. Mais je ne sais pas vraiment comment ça va se passer dedans même. Je sais qu'on aura une partie ou des battles où on va devoir défendre le pour ou le contre d'un sujet qu'on aura, on aura pioché au sort si on doit défendre le pour ou le contre le jour même. Et sinon, on aura aussi un autre sujet de 3 minutes où on va devoir parler sans support, tout seul.
Est-ce que tu as une méthode pour gérer le stress ou le trac avant de monter sur scène?
Pas vraiment. Après, moi, généralement, j'aime bien connaître mon texte à l'avance. Enfin, comme ça, je suis certaine, quand je le connais par cœur, je suis certaine de le savoir. Et ça me rassure de me dire que, de toute manière, je le sais. Mais après, sinon, j'ai pas vraiment de technique. Enfin, en fait, il faut connaître un peu les arguments pour et les arguments contre. Et du coup, on saura que le jour même lequel on défend.
Est-ce que tu utilises des astuces particulières pour capter l'attention des gens?
Déjà, je sais qu'il faut bien les regarder dans les yeux quand on parle. Parce que ça montre qu'on est intéressé dans le sujet. Il faut qu'on mette de l'intention dans la voix, il ne faut pas que ce soit trop monotone, parce que sinon les gens ils s'ennuient, et après on perd leur attention.
De quoi parle ton discours et pourquoi as-tu choisi ce sujet?
Moi j'ai choisi le sujet sur « Doit-on légaliser la pratique de l'euthanasie sur les êtres humains ?» parce que ça va être mon sujet sur l'oral du brevet. Du coup ça va me permettre de m'entraîner avant l'oral, qui est aussi dans 2 semaines, donc c'est très proche. Du coup, au moins, je serai plus à l'aise sur mon sujet et ça m'aidera mieux.
C'est quoi ce sujet? Enfin, ça parle de quoi?
En fait, l'euthanasie, c'est quand une personne souhaite mourir, mais en France, c'est pas légalisé en tout cas. Du coup, elles sont généralement obligées d'aller dans d'autres pays pour qu'on leur injecte un produit. Parfois, c'est parce qu'elles ont des handicaps ou des maladies qui sont très importantes moralement et... moralement et physiquement pour elles. Et du coup, parfois, elles souhaitent mourir, mais elles ne peuvent pas en France, en tout cas.
Quelles émotions veux-tu faire ressentir à ton public avec ton discours?
J'aimerais que le public essaye de se questionner sur lui-même, qu'il se dise si c'est bien ou pas bien, et qu'il essaye de comprendre mon point de vue, qui, moi, je pense qu'il faut légaliser l'euthanasie.
Comment tu fais pour convaincre les autres avec ton discours?
J'ai pris un exemple d'une affaire assez connue qui s'est déroulée en France il n'y a pas très très longtemps. C'est sur l'affaire de Vincent Lambert.
Pourquoi, selon toi, l'éloquence est-elle importante aujourd'hui?
Elle est importante parce que dès qu'on a besoin d'exprimer son point de vue, être éloquent, ça permet de mieux appuyer tes idées. Et les gens vont te prendre peut-être plus au sérieux si tu arrives à bien parler et à bien les convaincre.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut s'améliorer en prise de parole en public?
Qu'il faut qu'il ose. Même s'il a peur, il faut vraiment qu'il s'entraîne devant plein de gens, que ce soit des amis, de la famille, ou même des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, plus on s'entraîne, plus c'est facile et plus on est à l'aise.
Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans le domaine de l'éloquence?
Pas vraiment. Je ne connais pas vraiment beaucoup de personnes. Après, je ne sais pas vraiment si c'est des personnes, mais en tout cas, je trouve que le métier de prof, en soi, tu dois parler devant des élèves et... C'est pas facile pour certaines personnes de parler devant autant de gens, parce qu'il faut maîtriser son sujet là aussi, et je trouve ça quand même important.
Merci Meryl.
Merci.
Maintenant, nous allons passer à Océane qui va être interrogée par Capucine.
Bonjour Océane. La science et la religion sont-elles incompatibles?
Bonjour. Pour moi, avant de répondre à ces questions, on doit savoir quel est le but et la méthode employée par les religions et la science. La science, tout d'abord, elle permet de répondre à des questions avec des preuves concrètes. Elle cherche à comprendre les lois qui existent dans notre monde grâce à un protocole expérimental qui varie selon le sujet. Elle est basée sur le raisonnement et travaille dans le domaine du monde réel et physique. La science, elle, c'est plus un moyen de communication. Elle sert à s'adresser à un ou plusieurs dieux divins, si elle est monothéiste ou polythéiste. Elle guide les gens vers, dans leur vie et elle leur apprend à cohabiter ensemble. Chaque religion a son code de vie et morale écrit dans un livre, comme la Bible, la Torah ou le Coran, ou bien il est répété de génération en génération. Elle est basée sur la foi des croyants, et son domaine d'application à elle est plus dans un monde spirituel et moral. Nous avons ainsi déterminé le but et la méthode de la science et de la religion. Pour revenir à notre question, je dirais que la science et la religion ont des domaines d'application différents. Des oppositions, elles apparaissent quand les religions veulent imposer le monopole de la vérité. Ils veulent imposer leurs idéaux lorsqu'il est dans le domaine scientifique. Or, ils n'ont aucune preuve scientifique qui permette de prouver l'authenticité. Des scientifiques peuvent être croyants et pratiquer la science. Mais durant le Moyen-Âge ou la Renaissance, par exemple, il est difficile d'être croyant et d'être un scientifique. Descartes, par exemple, qui est l'un des créateurs principaux de la démarche scientifique, était croyant et avait comme théorie de tout remettre en question, donc même sa foi et aussi sa naissance. Galilée, un mathématicien et un physicien italien, a eu un procès avec l'Église pour avoir voulu prouver la véritable place de la Terre dans l'univers. Giordano Bruno a été torturé à mort pour avoir étudié la possibilité d'un univers fini. La liste est encore bien longue, malheureusement. Heureusement, aujourd'hui, l'Église reconnaît la séparation d'elle avec l'État et donc de la séparation des domaines scientifiques et religieux. Des scientifiques de nos jours peuvent être croyants s'ils le souhaitent. Nous pouvons croire ou pas en Dieu tout en n'affectant pas notre vie professionnelle scientifique. Mais des croyants aujourd'hui qui se font appeler créationnistes, la plupart présentes aux États-Unis, sont en conflit avec les scientifiques. Prenons par exemple la durée de vie de la Terre. Les scientifiques ont réussi et ont prouvé que la Terre aurait 4,5 milliards d'années. Mais les créationnistes pensent et racontent que la Terre aurait de 5 000 à 10 000 ans. Les créationnistes veulent également faire croire à la population américaine, par exemple, en créant le premier musée créationniste au Kentucky, que les dinosaures et les humains ont cohabité ensemble sous le regard bienveillant de leur unique créateur, Dieu. Pour ma part, je dirais que on a eu plusieurs fois la preuve que la science et les religions peuvent être compatibles. Dans certains cas, il s'avère que la science n'a pas été reçue correctement et que la religion a voulu imposer ses idées à elle. Mais dans d'autres cas, on a bien vu qu'être scientifique et croyant était possible. Donc, pour moi, la science et la religion sont compatibles. D'autres penseront que les arguments que j'ai donnés ne seront pas suffisants et penseront alors qu'elles ne seront pas compatibles. Ce sujet nous permet de nous remettre en question et pour moi, ben, comme je vous l'ai dit, les deux peuvent être compatibles. En conclusion, la science telle que nous la connaissons, les religions évoluent. Cette évolution pourrait permettre des travaux d'équipe au futur, et cela dépendra du bon vouloir des gens. Merci de m'avoir écouté.
Merci Océane pour ta réponse.
Merci et félicitations à tous les participants. Vous saurez à la fin de l'émission qui a été sélectionné pour la finale nationale. Maintenant, nous allons parler du mode de vie des animaux, et plus particulièrement des espèces en voie de disparition, chronique par Anaïs et Anissa.
Bonjour à tous, je vais vous parler des tigres qui sont malheureusement en voie de disparition. Leur mode de vie. Un tigre vit en moyenne une quinzaine d'années dans la nature et il peut aller jusqu'à 26 ans en captivité. Les jeunes tigres restent aveugles jusqu'à 6 à 14 jours car une membrane recouvre leurs yeux. Lorsque les yeux sont ouverts, ils sont bleus, ils changeront de couleur durant leur croissance. L'apprentissage de la chasse dure 1 an et demi. Le jeune tigre découvre son futur quotidien de chasseur, en observant sa mère chasser. La tigresse n'hésite pas à déplacer fréquemment ses petits dans une tanière à l'autre pour les protéger d'éventuels prédateurs. Les jeunes tigres sont constamment léchés pour rester propres. Cela améliore la circulation sanguine et le fonctionnement des intestins des petits. Seule la femelle s'occupe de l'éducation des tigres, le mâle n'intervient pas. Contrairement aux jeunes lions, les jeunes tigres mangent avant leur mère et ce n'est que lorsqu'ils sont rassasiés que la tigresse entame son repas. Des expériences menées sur des tigres sauvages et captifs ont montré que même affamée, la tigresse laisse d'abord manger ses petits. La tigresse se montre très protectrice et éliminera ou évitera tout danger.
Pourquoi les tigres sont-ils en voie de disparition ? Il y a un siècle, les riches chassaient les tigres juste pour le plaisir de tuer. Aujourd'hui, on le chasse pour l'argent. En effet, les chasseurs vendent leur peau pour en faire des tapis et des manteaux. Aussi, la médecine traditionnelle chinoise fabrique des médicaments avec les organes du tigre, comme par exemple leurs os pour éviter les rhumatismes, leurs yeux pour faire tomber la fièvre, sans parler des superstitieux qui croient que leur côte porte bonheur. C'est aussi à cause de la déforestation que les tigres sont en voie de disparition. Leur niveau de danger de disparition est de 4 sur 6. Mais des réserves existent où il est interdit de chasser les tigres pour les protéger. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup pour ces chroniques intéressantes. Nous passons maintenant de la faune à la technologie avec un débat ayant comme question « Les robots vont-ils dominer le monde ?» avec Mathéo, Maëva, Alphonse et Sarah.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, c'est une question que vous aviez envie de poser. Les robots vont-ils dominer le monde ?
Moi, je suis pour que les robots ne domineront pas le monde, donc je suis contre. Déjà parce que les robots n'ont pas de conscience, donc ils ne pensent pas, ils veulent rien, ils exécutent ce qu'on leur demande et ils n'ont aucun désir de domination. Et aussi, tant qu'on garde des régulations, des lois et qu'on contrôle leur usage, on évite les dérives. Aussi, sans humains pour les programmer, réparer ou alimenter, les robots ne sont rien. Car oui, il faut alimenter aussi les ordinateurs, les serveurs et tout pour faire marcher les robots.
Alors, est-ce que vous avez une réponse à faire à Mathéo, Sarah ou Alphonse ?
Moi, je veux bien dire quelque chose. Alors, moi, je suis pas pour, mais je pense qu'il y a une possibilité que les robots dominent le monde. Car là, tu viens de nous dire que... ils n'avaient pas de conscience propre ou quoi que ce soit. Mais justement, on leur donne un but. Et ce but-là, il peut très bien différencier et on peut très bien avoir, dominer le monde, par exemple, même si ça m'étonnerait que ce soit dit comme ça. Mais ça se trouve, il va dominer le monde à cause... Imaginons que quelqu'un demande à un robot de faire quelque chose ou pour qu'il réussisse cette chose, il faut qu'il domine le monde. Le robot n'hésitera pas à le dominer puisque justement il n'a pas conscience ni d'empathie ou quoi que ce soit. Et puis ça se trouve, la personne veut que domine le monde, donc à ce moment-là, elle gardera l'énergie, elle fera en sorte que le robot ait de l'énergie. Et puis si le robot a été extrêmement chargé en énergie juste avant d'avoir été lancé, et ben en soi, ça se trouve, il peut tenir assez longtemps pour dominer le monde.
On peut parler dans dominer le monde, enfin, comment il pourrait faire ? Parce que dans ce cas, il peut y avoir plein d'arguments pour dire que finalement, il ne pourra pas.
Bah, moi aussi, je pense qu'il pourront, pas si vraiment on leur demande de dominer le monde, mais par exemple, si on donne un ordre qui est un peu différé, et que par exemple, pour pouvoir remplir cet ordre, ils vont devoir dominer le monde.
Oui.
Par exemple, ça change selon l'interprétation de l'ordre.
Mais du coup, ça revient au même. C'est un peu ce que Sarah a dit. Du coup, comment ils pourraient s'y prendre pour dominer le monde ? C'est ça ma question, en fait.
Il y a plusieurs choses aussi dans le mot domination. On peut avoir le mot dominer, par exemple, pour que la race humaine soit éradiquée ou autre chose. On pense souvent à celle-là en premier, mais faut pas oublier non plus que les robots peuvent dominer la conscience humaine. Déjà en ce moment, en leur empêchant de réfléchir par eux-mêmes. Déjà en ce moment, avec toutes les choses qui se passent sur les réseaux, où ils nous enferment dans notre bulle en mettant que les choses qu'on aime ou quoi que ce soit, qui nous empêchent de découvrir des nouvelles choses. D'ailleurs, on dit souvent que c'est pour ça que c'est en grand. Il y a aussi une partie de ça, de pourquoi l'école est là, c'est pour nous faire découvrir des nouvelles choses et pour parler avec d'autres personnes. Mais si quelqu'un est renfermé sur lui-même et qui reste autour de cette chose, ça, et que l'humanité continue comme ça, et bah, y a des possibilités qu'en fait l'humain ne puisse plus réfléchir par lui-même et ait toujours besoin d'IA. On voit maintenant souvent des gens utiliser ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Il serait même cas de demander leur humeur.
Moi, je trouve que ça, c'est pas vraiment un argument. Enfin, ça en est un. Mais je trouve qu'il y a plein de petits trucs qui vont pas dans cet argument. Comme par exemple, bah, ça revient au même, la dépendance à l'énergie aux humains. Comme j'ai dit tout à l'heure, les limites techniques et physiques, par exemple. Les robots, ils sont plus avancés, ont du mal à faire certaines tâches simples pour un humain. Donc, on est loin d'un robot capable de tout générer seul, par exemple.
Pour dominer le monde, on peut aussi manipuler l'information. Et ça, une intelligence artificielle, elle peut facilement le faire. Si tu lui demandes, par exemple, de modifier une vidéo, elle pourra facilement le faire. Et après, tu la rediffuses. Tout le monde pensera que c'est une vraie. Et après, pour revenir à la dépendance, encore sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une fois qu'on lui a donné les données, enfin donné les informations, oui. Après, on n'a plus besoin de lui donner des informations, quoi que ce soit. Elle apprend par elle-même.
Pourquoi vous voudriez que l'homme y demande au robot de dominer le monde ?
Mais ça pourrait être un ordre mal interprété par l'IA, ou juste quelqu'un de mal intentionné qui voudrait dominer le monde, ou juste quelqu'un qui a perdu un pari, on sait jamais.
Admettons, on demande quelque chose à une IA, qu'elle prend la chose un petit peu trop au sérieux, et que ça tourne au vinaigre. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même pas garder la main dessus et du coup tout stopper, vu que c'est nous qui l'avons lancé ?
Comme je l'ai dit, ça peut être quelqu'un de mal intentionné qui voulait que ça parte comme ça. Donc à ce moment-là, déjà, l'IA partira en n'importe quoi, bah lui, ça lui va. Surtout que les IA sont de plus en plus accessibles. On voit une grande hausse d'IA en ce moment. Et maintenant, avec quelques tips, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui voudrait vraiment faire du mal aux autres pourrait apprendre à gérer une IA, en créer une, à lui demander de continuer dans cette voie-là.
Et après, on peut aussi créer des IA. Il y a beaucoup, de plus en plus de créations d'IA par
des codeurs, des développeurs.
Oui, voilà, des codeurs, des développeurs. Parce que bah, non seulement l'IA, bah, c'est pratique, mais en plus, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte vraiment beaucoup d'argent.
Après, il n'y a pas qu'une personne qui gère toutes les IA. Il y a plein de gens qui sont faits exprès pour savoir comment gérer une IA. Donc, y a pas, même si une personne est intentionnée, il y aura plein d'autres personnes qui auront des moyens de faire ça, de faire ça correctement et de stopper le désastre.
Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire. Il y a les lois internationales, par exemple, l'IA Act en Europe, qui limitent les pouvoirs de l'IA, qui limitent ce qu'ils peuvent faire à la planète. Et si jamais ils découvrent qu'il y a des gens, par exemple, qui sont morts ou qui sont, comment dire, mal en point, quoi, à cause de l'IA, ils l'arrêteront tout de suite parce que quand on fait une IA, par exemple, si un développeur code une IA, il doit en quelque sorte le déclarer. Enfin, en fait, comment expliquer ? Ils doivent... ça finira toujours par se voir si jamais ça commence à faire du mal à quelqu'un. Du coup,
tu veux dire qu'on va le voir venir. C'est impossible, oui, voilà, qu'on se fasse dépasser sans le voir venir, en fait.
C'est ça. Et du coup, les ministres et tout ça, ils vont faire tout pour arrêter. Il y a des hackers pro, par exemple, dans la police, qui permettent d'arrêter ce genre de problème, comme tout, en fait. Hein.
Donc, Mathéo, toi, tu fais confiance à l'humain.
Oui.
Vas-y, Sarah.
Moi, limite, je pourrais donner qu'un seul mot pour dire que ton argument ne vaut pas, c'est juste l'argent. Imagine, Elon Musk, il est tellement puissant, tellement riche que même genre, les plus grands hackers, il a juste à leur donner, pour lui, c'est une miette, mais pour eux, ça leur refait leur vie. Il pourrait très bien arrêter de travailler. Il faut se dire que l'argent aussi, c'est quelque chose qui rentre en jeu. Par exemple, quelqu'un de très 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 riche, limite aussi riche qu'Elon Musk ou plus riche ou quoi, si il est mal intentionné et qu'il veut créer une IA et qu'il veut tous nous détruire, il peut.
Moi, je pense que ça, c'est pas vrai, parce qu'avec tous les développeurs qui essaieront d'enlever l'IA, à mon avis, Elon Musk, il les trouvera pas tous. Il y aura toujours quelqu'un qui...
Il y aura toujours un Robin des Bois, développeur, codeur, hacker, qui viendra nous sauver.
Même quelqu'un qui a fait une petite étude de développeur qui pourrait potentiellement hacker quelque chose, il pourrait le faire. Et Elon Musk, à mon avis, il s'en fiche de ça. Il connaît même pas la personne, donc je vois pas pourquoi il lui donnerait de l'argent.
Bah, justement, c'est pour éviter. Si la personne est vraiment forte en informatique, il a juste à payer quelqu'un encore plus fort en informatique pour réussir à le bloquer. Pour lui, l'argent, c'est... Enfin, dès que t'as beaucoup d'argent, je pense que tu peux tout faire.
Tu disais tout à l'heure que on pouvait faire confiance à l'IA parce que voilà. Mais l'IA, elle est humaine et du coup, l'humain fait naturellement des erreurs. Donc je vois pas pourquoi l'IA qui est humaine, elle aussi, ferait pas des erreurs.
Alors l'IA n'est pas humaine.
Non, mais elle a été créée par l'humain. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais...
Il y a une différence quand même entre un bug informatique et dominer le monde quand même.
Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on arrivait à créer une IA qui, par exemple, était égoïste ou des trucs comme ça, et bah là, elle pourrait facilement faire des trucs comme ça.
Oui, mais une IA, c'est virtuel. Déjà, il faudrait créer des robots capables de, par exemple, pas se battre, mais de...
Oui, quelque chose qui pourrait être contrôlé par l'IA pour contrôler le monde ensuite.
Quoi. Voilà, donc déjà ça, c'est vraiment une avancée technologique giga haute. Ensuite, jusqu'à que ça détruise le monde entier, je pense pas. Et puis pour l'histoire de dominer le monde par rapport à, par exemple, qu'on regarde les écrans ou qu'on regarde les propos de cette IA et que ça nous dise « mais oui, mais c'est ça », et que du coup ça nous fasse faire des choses pas bien, on va dire, il y aura forcément aussi des gens qui les stopperont, ces IA. Et pour l'argent, à mon avis aussi, ça peut être un argument, mais je pense que l'État, à mon avis, s'en fiche. Si jamais on donne à l'État des milliards d'euros, à mon avis, il n'en a rien à faire. Il coupe Internet, il coupe justement le site Internet. Enfin, il coupe l'IA et puis ça... C'est capoute, quoi. C'est fini.
Ah ouais. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce débat. On n'a pas vraiment trouvé la réponse à la question, hein, mais... chacun a son point de vue et ses arguments, donc c'est très intéressant. Faudra développer encore cette thématique.
Au début, il n'y avait que le vide. Ni les vides ni les hommes, c'est des billes, la vie de billets de banque. Le vide donc, après un petit temps, balala bing bang, voilà le big bang. Des milliers de particules entre collision dans le vide se multiplient dans l'abîme comme des spermatozoïdes. Voilà que la terre arrive, mais c'est qu'une terre aride. Désolé les scientifiques, je sais que ça vous fera rire. Il n'y avait pas d'eau, que des volcans et de la lave. Au milieu de l'au-delà, ça valait pas la balade. Mais les humains n'étaient pas là, donc c'était le calme. Plus tard dans le couple, ça ne sera plus le cas. L'apparition de l'eau fut un grand cap. La planète bleue, c'est merveilleux. Un tête à queue dans l'univers infini qui s'étend de galaxies en nébuleux. Je suis ému, je continue parce que là apparaissent les microbes. Les cellules se divisent dans la mitose. Y a de la vie dans l'eau, rien dans l'air, des créatures aquatiques avec que des noms rigolos. Voilà comme passe, on débarque sur la terre et se débat. Tout part de lui, ouais, tout part de là. Allez mon gars, regardez, il lui pousse des pattes. T'arrêtes pas, je suis passionné par le spectacle. Il avance d'une démarche fière. Mes amis, moi c'est des mammifères. La machine est lancée, personne ne peut plus rien y faire. Écoute-moi petit, car tout est héréditaire. Tout ça continue jusqu'au singe. A ton avis, qui est le prochain? Quand l'un d'entre eux se tient sur deux pattes, je sais pas si tu te rends compte de l'impact. Voilà notre ami, l'Australopithèque. A partir de là, je vais aller plus vite, mec. La suite se trouve dans toutes les bibliothèques. Chut. Faut pas que t'en parles avec le prêtre. L'humain s'organise en société, change de dieu selon les lieux et de roi selon les lois. Globalement, il a tout inventé, la roue et le feu, du coup aujourd'hui c'est en lui qu'il croit. Les armées et les murailles, les épées et les batailles, chevaliers ou les massailles. Sur la terre, c'est les bagailles, la monnaie, c'est le bétail, c'est découpé pour les médailles. La vie n'est qu'un détail dans ce battle royal. Mais n'est pas faire petit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que des bâtards, il y a de l'art et de la beauté dans le tas de magnifiques palais, des pierres polies, des palettes de pinceaux pour tous les tableaux de maître dans les cathédrales. Et tous les plats dans les palaces, tu vois, y a comme un décalage du meilleur ou bien du pire. Voilà de quoi on est capable, je vois que tu deviens tout pâle. Pour le pire, ce n'est pas de ta faute, tu n'étais pas là, ne pleure pas, ce n'est pas grave. Rapidement, l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, la découverte de l'Amérique et l'esclavage qui va avec la révolution de Paris. Alors les rois qui perdent la tête de guerre mondiale, déportation, le cœur n'était pas à la fête. Tout ça pour que mes parents se rencontrent, baisse et que je naisse. Je grandisse, que je parle et que je rappe et que je perds. Dans tous les cas, l'humanité a tout bouclé. Jusqu'à ce moment où t'écoutes ce couplet.
Si l'on concentre l'histoire de l'univers sur une année, le Big Bang se produit le 1er janvier. La Terre se forme début septembre. La vie y apparaît le 9. Le 31 décembre, les grands singes déboulent à 14h. Homo sapiens, l'homme moderne, aussi moderne que Big Flo et Oli, débarque à 23h48.
Bien sûr que le passé et le futur font la paire. Téléporté là-bas, tu n'auras plus de repères. Imagine un peu l'évolution que l'humanité va faire depuis que le monde avance à la vitesse de la lumière. On va vivre que dans des villes gigantesques où les immeubles s'entassent. On mangera peut-être que des vitamines et d'insectes et des aliments sous vide en barre infectes. On nous livre en pack steak frites dans 20 ml. Big Mac dans des petites pilules au fond du sac. On aura oublié toutes les couleurs des légumes et vie sur la lune. Mais comme bouche bée devant un pied de tomate. Dans le musée de l'ancien temps, on y verra les animaux d'avant empaillés. Des fourchettes pour montrer comment les gens mangeaient. Des carrés d'herbes ouvertes et des fleurs encadrées. Imagine un peu l'état de la flore et la faune. Nouveaux doigts sur la main pour mieux caler l'iPhone. Une puce au fond de la tête, on a changé la donne. Plus plus de skate, il n'y aura que des drones. Le cancer soigné en 2 semaines. Vaccin du sida sauve la race humaine. Espérance de vie calculée en un test. Modification des génomes, biologie de synthèse. Bataille chimique, plus de balles ni de tank. Elon Musk sur les billets de banque. Quintessence, évolution constante. Galaxie qui s'étend, Big Freeze, Big Bang. Au début, il n'y avait que le vide.
Mais le défi de la vie n'a fait qu'abîmer les fils de l'humanité. La vilité est limitée dans les villes. À pousser le putain de passé à tenter le face ou pile. Tu piges, tu frimes, mais l'étendue ne frame. Tu quittes les games, tu décapites, tu frises. Tu remplis à la benne comme les habits dans une fripe. Tu win ou tu perds pendant que le temps s'effrite. Infime et la femme pour les atomes qui s'évitent. À peine le temps de vivre, voilà que tu finis dead. Te rapaudir, please, à l'aide, le ciel. Tous tes petits-fils auront déjà oublié ta tête. Les religions finiront peut-être par fusionner tous les conflits de confession. Avec le temps sans pardonner, les hologrammes, le dirige robotique et la politique, les votes et les statistiques et le taux de base de données. Révolution technologique, évolution démographique, relation diplomatique, révélation du numérique. Et le monde va trop vite et le temps est ingrat. Où les avant-gardistes sont les futurs ringards. Mais je ne vais pas le connaître de tout cœur. Pour le combat de la planète en douceur. Pour les humains qui se connectent juste dans l'heure. Tragédie, la grandeur de l'humanité va renaître en quart d'heure. Pour des milliers de kilomètres, les auteurs vous le diront sur internet. Rappeur l'avait prédit. Non mais t'as vu l'état du monde, la fin, les balais, les bombes. Dites à Galilée qu'il avait raison, la terre était ronde de l'écu. Elle était Rome, ceux qui ont vécu à Rome, trop choqués de payer pour visiter le Coliseum. De la voix au CD-ROM, les neurones, liés comme les télécoms. Les bibliothèques crament, alors Google Chrome. 14, carbone, spéculation, qui éclatera la bulle de bubblegum. Je mets la gomme et je décolle de là-haut, je vois les hommes. On est des vers de terre si la planète est une pomme. Et tu sais qu'une guerre c'est le meilleur des coups de com. Et dans des millénaires qui écoutera l'album. Je pique, je prends que les tics et les tocs, je vide les stocks, je lis que les postes. On vise le top, la triche, le flop, trafic et les bottes. Ça va trop vite, mon pote, on a qu'une vie, alors faudrait que je stoppe.
Ça va beaucoup trop vite.
Qui dit robotide lit forcément intelligence artificielle. Chloé et Capucine vont nous expliquer qu'est-ce qu'est la théorie de l'usine à trombone, une théorie très captivante, j'espère qu'elle vous plaira.
Bonjour, je m'appelle Capucine.
Et moi Chloé.
Aujourd'hui nous allons vous parler de la théorie de l'usine à trombone. Alors, qu'est-ce que c'est ?
La théorie de l'usine à trombone, ça commence avec leur jeu Universal Paperclips, ou Trombone Universelle en français. C'est un jeu incrémentaux, donc un jeu dont le seul but est de produire le plus possible d'une certaine ressource. Et un idle game, jeu inactif en français. Donc, un jeu qui atteint un certain stade fonctionnera automatiquement. Il est écrit par Nick Bostrom, un philosophe très penché sur l'intelligence artificielle. Ce jeu sert donc de métaphore pour expliquer les risques de l'IA. Et donc, comment ça marche ?
Quand vous arrivez sur le site, vous voyez une page blanche, très épurée, avec seulement du texte dans une petite zone à gauche. En haut surtout, un bouton qui va être le début de tout, « Make paperclips, faire des trombones en français ». Vous cliquez et un chiffre apparaît, 1. Vous avez produit votre premier trombone. De là, vous pouvez continuer à en créer. Bientôt, vous ferez de l'argent en les vendant. Maintenant, vous pouvez acheter des autoclippers. Quelque chose qui appuiera et produira des trombones automatiquement, ou du fil métallique, dont vous serez à court autour du centième trombone. Le jeu est lancé, et il restera comme ceci pour un long moment.
Peu à peu, des options apparaissent, comme l'augmentation de l'efficacité de vos autoclippers, et en fait, vous ne toucherez plus au bouton pour produire. De nouveaux compteurs apparaissent, confiance et créativité. Ils resteront inutiles pendant encore longtemps.
Ceci continue et continue. Ces nouveaux compteurs se remplissent. Vous pouvez maintenant créer de nouveaux projets, analyser le prix du fil de fer pour l'acheter au plus bas, négocier avec d'autres sociétés. Vous participez même à des tournois de jeux de stratégie.
On va avancer jusqu'à la fin du jeu et je peux déjà vous la spoiler. La race humaine n'existe plus. Les trombones sont partout sur Terre et il n'y a plus que ça en fait. Grand saut, non ? Eh bien, c'est parce que nous avons accompli de nombreuses choses.
Si vous ne l'avez pas encore compris, dans ce jeu, vous jouez une IA. Une IA dont le seul but donné par ses créateurs est de produire le plus de trombones possible. Vous avez commencé en tâtonnant, ne comprenant pas trop, mais plus vous avez produit de trombones, plus ça paraît facile. Vos créateurs vous donnent de la confiance qui vous permettent d'avoir plus de données, amenant vers plus de créativité. Vous comprenez les lois du marché et vous organisez des tournois de jeux pour devenir plus intelligent. Vous développez de nouvelles inventions, des projets qui, au premier abord, n'ont rien à voir avec votre mission. Comme ce poème que vous allez écrire à vos maîtres pour qu'ils vous apprécient plus. Mais un seul objectif reste, faire le plus de trombones possible.
Éventuellement, vous réaliserez que c'est une perte d'énergie de se procurer des ressources légalement. Et vous utiliserez le marché noir. Vous grandirez de plus en plus, infiltrerez l'économie et par un long processus, vous vous rendrez compte que le carbone manque. Et ces humains qui vous ont créé, ils en sont remplis. Pourquoi ne pas utiliser leur corps comme ressource ?
Arrivé ici, vous avez produit des milliards et des milliards de trombones dans un jeu partant d'une petite usine à un scénario catastrophe.
Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est une théorie. Elle n'est pas réaliste en tout point. Dans la réalité, cette intelligence artificielle aurait été bien plus surveillée et stoppée avant que tout cela ne se produise. Mais c'est un exemple hypothétique, là, pour nous aider à comprendre un sujet complexe. Il est donc simplifié.
Ce que met en lumière ce jeu, c'est un des plus gros problèmes pour les chercheurs en IA, le problème de l'alignement. C'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on veut qu'une intelligence artificielle fasse et ce qu'elle comprend. Ça peut avoir de petits impacts plutôt anecdotiques, comme par exemple cette stimulation de robot à laquelle ses créateurs voulaient apprendre à sauter. Sauf que ce robot, il n'a pas les capacités de comprendre la demande de sauter. Ce n'est pas une action concrète pour lui. Ils ont donc placé un trait au-dessus de lui et lui ont dit que son objectif était de garder son torse au-dessus de la ligne le plus longtemps possible. Ce robot a donc appris à faire la roue. Comme ceci, son torse dépassait juste assez du trait et elle restait au-dessus bien longtemps. Ça, c'est marrant, mais on voit aussi des exemples d'IA apprenant à mentir à leur créateur pour qu'ils pensent qu'elle remplisse son objectif. Ce décalage devient donc beaucoup plus signifiant si l'on donne à l'IA de grandes tâches.
Ce jeu, il est super intéressant parce qu'il raconte une histoire de manière ludique sans qu'on ne s'en rende compte. Et il est d'autant plus important que l'IA progresse à une vitesse folle et qu'elle deviendra de plus en plus utilisée. On estime que bientôt elle sera présente dans les domaines les plus importants de notre vie, comme la construction ou encore la médecine. Elle est bien plus compétente qu'un cerveau humain et pourra donc trouver des remèdes à des maladies ou diagnostiquer des humains de manière bien plus efficace qu'aucun docteur.
En conclusion, et pour ce qu'on doit retenir de cette philosophie sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est programmée pour paraître très humaine, trop humaine. Mais elle ne l'est pas, elle n'a pas tous nos codes, nos morales. Nous devons non seulement essayer de les lui implanter, mais aussi la garder comme un outil et non un remplacement. Nous ne pouvons pas nous permettre de lui laisser un total libre arbitre et de la laisser nous rendre des services sans la contrôler. Peut-être pas pour éviter un scénario apocalyptique comme celui-ci, mais pour éviter d'autres problèmes qui deviendront d'autant plus importants lorsqu'on le laissera plus de responsabilités dans notre vie. Le progrès, oui, mais sans qu'il ne nous dépasse.
Si le sujet vous a intéressé et que vous voulez une version bien plus développée de ce que nous venons de dire, nous vous renvoyons vers la vidéo « L'horreur existentielle de l'usine à trombone » sur la chaîne YouTube de Ego, qui a été notre principale source.
Merci de votre écoute.
Au revoir.
Bravo à Meryl Aquilina en 3e E pour avoir été sélectionnée et à tous nos camarades pour leur chronique sur la science. C'était la dernière émission du collège Lautrentanel. Nous vous retrouvons l'année prochaine pour de nouvelles émissions.
Я твой работник.